Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, dans un petit peu plus de 3 semaines maintenant, le 15 de France entamera face à l'Italie la saison internationale sans doute la plus exaltante de son histoire, avec en ligne de mire, là-bas, au bout de l'été, cette Coupe du Monde qui lui fait de l'œil. Oui, mais avant de se mesurer aux nations du Sud, il faudra déjà confirmer face aux équipes européennes le grand chelem de l'an dernier. Pas une mince affaire pour des Bleus attendus au tournant. Alors avec quels joueurs allons-nous débuter ce tournoi? Certains cadres inquiètent alors que d'autres jeunes loups rêvent de faire partie de l'aventure. On vous dit tout dans un instant. L'actualité du 15 de France qui ne vit pas que dans le court terme. Et oui, au sommet des Bleus, on pense déjà à l'après-Coupe du Monde. Et Galtier a peut-être trouvé ceux qui lui permettront de continuer à briller à partir de 2024. Des noms sont annoncés et quelques-uns démentis. C'est le cas de Pierre Mignoni qui a réagi cet après-midi aux infos publiées ce matin et affirmé son intention de rester à Toulon. Alors on le croit ou on le croit pas, en tout cas on fait le point dans quelques minutes sur toutes ces infos et on étudie les CV. Les poteaux du jour, ce sont Denis Charvet. Salut mon Denis, comment ça va?
Salut.
En pleine forme?
Pleine forme, oui. Je suis allé à Jambouin ce week-end, voir un match du top 14. De temps en temps, il faut avouer que c'est pas très bon. Voilà, et de temps en temps, c'est meilleur. Donc,
Et là, c'était plutôt.
C'était pas
très bon.
Non.
Au cœur de l'hiver, c'est pas toujours facile. Manu Massicard est avec nous, le patron de Middle, qui fait son retour, débarrassé de ses problèmes techniques. Comment ça va, mon Manu?
Salut les amis, meilleurs voeux à tous. Un grand plaisir d'être ici avec vous. L'informatique fonctionne, tout va bien.
Tout va bien. Et puis les petits gars de la maison RMC Sport, j'ai nommé Julien Landry et Pierre Amiche qui sont de la partie. Comment ça va les garçons?
Ça va très bien, bonjour messieurs.
Ça va très bien. À ce qui paraît, il y a eu beaucoup de quilles du côté de Jambouin. C'est vrai ou pas, Denis?
De quilles?
Oui, des quilles.
Qu'est-ce que t'entends par quilles?
Bah, ça a pas mal joué au pied, apparemment.
Ah oui, parce que lui, quand il parle de bouteilles
en général. Ah, oui, je crois qu'il y en a eu beaucoup aussi.
Mais il n'y avait pas de bouteilles, je crois, c'est ça?
Si, il
y
en avait.
Il a rien vu du match, il était derrière.
Non, j'ai vu 25 minutes.
Après, il a roulé sous les sièges.
J'avais un certain Vincent Moscato à mes côtés. On s'emmerdait tellement, il m'a dit allez, viens, on va boire une bière au bar. Si, on l'a vu la bière aussi.
Mais pas qu'une. C'est ça le problème.
Avec modération.
Je le disais, dans un petit peu plus de 3 semaines maintenant débutera donc le tournoi des 6 nations 2023 et par conséquent la saison internationale du 15 de France, saison capitale qui s'achèvera, on l'espère, le 28 octobre prochain en finale de Coupe du Monde au Stade de France. En attendant, c'est donc l'Italie qui sera le premier adversaire des Bleus. Ce sera le 5 février prochain. Des Bleus qui seront rassemblés à Marcoussis le 22 janvier après que Fabien Galtier aura annoncé sa liste des 42. Alors avec toi Julien, on va voir à quoi pourrait ressembler cette liste qui va évoluer sans doute par rapport à celle de la tournée de novembre, évolution due évidemment aux allers-retours de certains à l'infirmerie. Avant de voir quel petit nouveau pourrait apparaître dans la liste et quel retour on pourrait assister, voyons d'abord ceux qui pourraient manquer à l'appel. On pense notamment à deux cadres, dont les genoux couinent sérieusement, Julien.
Ouais, on est content déjà, on va retrouver notre équipe premium, chère à Fabien Galtier. Tu l'as dit, elle sera annoncée le 22 janvier prochain. Mission pour cette équipe-là, défendre son grand chelem avec une année impaire. Et on sait que c'est compliqué. Et tu l'as dit, deux joueurs cadres vont manquer avec leurs problèmes aux genoux. On pense notamment à Jonathan Danti, aujourd'hui l'un des meilleurs centres du monde. Et au pilier droit, Ouni Antonio, qui est sorti blessé contre Toulouse samedi soir, qui stabilisait la mêlée française et qui va passer les examens cette semaine pour connaître la gravité de sa blessure au genou et la durée d'indisponibilité. Pour Danti, on présage peut-être que même l'intégralité du tournoi pourrait être ratée par le centre de La Rochelle. Il y a quelques blessures aussi dont on parle un petit peu moins. Jean-Baptiste Gros, une des deux doublures de Cyril Baye à gauche, est également forfait. Dans une moindre mesure, Johan Tanga, le 8 Rochelet, doublure de Aldrit, sera aussi absent. Sans oublier évidemment Arthur Vincent, blessé de longue durée au genou et qui a peut-être même fait déjà lui une croix sur la Coupe du Monde. Et puis, il ne faut pas oublier, Christophe, qu'il reste quand même malgré tout encore 2 semaines de Coupe d'Europe. Mais et oui. Quand on voit comment ça pique chaque week-end, Galtier va croiser les doigts pour ne pas perdre de nouveaux cadres avant le 22 janvier, date du rassemblement à Marcoussis.
Ça, de toute manière, on le savait, ce serait le leitmotiv de la saison. L'état de l'infirmerie, les joueurs blessés et leur durée d'indisponibilité. Denis, quelle est l'absence qui te préoccupe le plus dans ce début de tournoi, celle de Danti, celle d'Antonio?
Ben, de loin, celle de Danti, parce qu'après, Antonio, effectivement, est un pilier. Ben, c'est le cas de dire de cette équipe, mais après il y a des Bamba, il y a des Owas derrière qui sont là, Falotea, donc il y a du monde, s'il y a du monde quand même qui a de la qualité derrière, mais après Danti le problème c'est que son profil, ben il y a pas beaucoup de joueurs qui le correspondent, et surtout c'était devenu une pièce maîtresse quoi, voilà, donc sur laquelle on pouvait s'appuyer ou rebondir, il faisait un travail dantesque en défense aussi,
Danti le dantesque, hein, c'est bien.
Et puis il allait récupérer des balles dans les rucks, enfin voilà, c'était un joueur complet et surtout qui rentre dans une stratégie propre à celle de Fabien Galtier. Voilà, je trouve que ça peut nous porter préjudice de ne pas avoir ce monstre au milieu du terrain.
Vous êtes d'accord, Manu?
Moi, je serais un petit peu... Antonio, effectivement, joue pilier, Denis.
Merci.
C'est la vraie analyse. Les poteaux, on sent 2023. Voilà. Là, c'est vraiment l'analyse.
On est en mode analyse cette année.
On y est au niveau. Antonio joue pilier. Allez, blague à part, moi, je suis un peu plus gêné par cette absence qui, si elle se confirme sur la durée, ne sera pas... bonne nouvelle, parce qu'Antonio occupe une sacrée place en équipe de France, sur le terrain et en dehors, dans la vie de groupe, c'est quelqu'un qui pèse et qui compte énormément. Il a su faire énormément d'efforts pour revenir au niveau ces dernières années et épouser le projet équipe de France. Et puis derrière, tu as parlé d'Awas, tu as parlé de Falatea, tu as parlé d'Embabamba. Aujourd'hui, le taulier, c'était Antonio. Et je pense que autant on va avoir de la jeunesse qui peut pousser au centre, autant et des solutions aussi, avec Moefana notamment. Autant l'absence
de... Oui, mais c'est pas le même profil. Ce que tu évoques, c'est que un pilier droit, ça reste un pilier droit. Je suis désolé. Après,
ouais, mais Winnie, il a quand même une importance dans la façon de jouer de l'équipe de France. C'est un des premiers porteurs de ballon. Il fait 146
alors,
plombes.
Est-ce que Bamba peut pas avoir ce profil-là?
Bamba est plus explosif.
Il a pas les mêmes mains qu'Antonio.
Et regarde, ouais. le premier essai face à l'Irlande l'année dernière, c'est Winnie Antonio qui vient défier en tant que quasiment premier attaquant, mis dans l'intervalle. Il y a aucun pilier droit aujourd'hui en France qui est capable de faire ça. Après, on peut changer sa manière de jouer. Hein, c'est pas interdit.
Il va beaucoup moins vite au sol que peut le faire Bamba. Ouais, pour moi c'est un numéro 1 qui, enfin, c'est, il sera pas facile à remplacer celui-là.
Heureusement, Falatea est dans un profil un peu différent, oui. Mais il a marqué des gros points pendant la dernière tournée. Et on a un joueur très explosif, Embabamba, joueur très explosif. Et malheureusement.
Et Awas, il n'y a plus, voilà, plus d'Awas.
C'est Julien qui pourra pas.
Mais le problème d'Awas, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a un procès quand même vendredi.
C'est ça. Un nouveau procès.
Qui pourrait. C'est sur une nouvelle affaire. Et un procès qui pourrait priver Mohamed Awas du tournoi à destination. Et peut-être même de la Coupe du Monde en fonction de ce qui va être décidé.
C'est tendu pour lui que le premier procès, Julien, là ?
Mais le problème, c'est que tout va dépendre de la justice. Et si la justice décide que les deux affaires sont liées, le sursis des 18 mois de prison avec sursis de Mohamed Awas peut sauter. Et du coup, Mohamed Awas peut se retrouver avec un bracelet électronique au mieux. Et alors après, on va rentrer dans les questions juridiques avec est-ce que tu peux jouer avec un bracelet et tout ça. Donc ça peut être compliqué. Mais oui, évidemment, il y a une grosse épée de Damoclès sur Mohamed Awas vendredi matin avec ce procès pour une autre affaire qui remonte à une dizaine d'années.
Bon, on va croiser les doigts pour lui, évidemment, et pour l'équipe de France. Concernant, tu le disais, Manu, concernant le poste de centre, il y a des solutions qui s'offrent. Moefana est un centre de métier, donc il pourrait pallier à l'absence de Danti. Il faudrait alors trouver quelqu'un pour le remplacer à l'aile. Et ce qui arrangerait tout le monde, évidemment, ce serait que Gabin Villière puisse retrouver son poste.
Oui.
Ce qui n'est pas exclu, Julien, parce que le Toulonnais est en phase de reprise, comme d'autres membres d'ailleurs de l'équipe Premium.
Exactement, il y a quelques bonnes nouvelles. Et François Cross et Gabin Villière, qui étaient du grand chelem de la saison dernière, devraient faire leur retour sur les pelouses. Alors pour Cross, il était déjà disponible la semaine dernière contre La Rochelle, il n'a pas été appelé, mais il devrait être appelé pour la Coupe d'Europe. Gabin Villière est en phase de reprise et il devrait être prêt pour la fin du mois de janvier, ce qui veut dire que Fabien Galtier pourrait les appeler le 22 janvier pour faire la semaine de préparation. Et puis ce qu'il pourrait faire, c'est les libérer en club pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu jeu avant le début du tournoi des Six Nations contre l'Italie. Demba Bamba, on en a parlé, il a rejoué lui ce week-end à Lyon, à Pau avec Lyon, donc c'est la bonne nouvelle avec Antonio. Et puis Paul Villemse, qui était absent lui aussi lors de la tournée de novembre, revient bien avec les Montpellierains, remonte en puissance, et on sait dans le profil de jeu de Fabien Galthié l'importance d'un numéro 5 très costaud, et c'est vrai que Paul Villemse était un homme très important du dispositif de Fabien Galthié. Même si l'équipe de France a gagné sans lui contre l'Afrique du Sud, c'est quand même une très bonne nouvelle, le retour du deuxième ligne Montpellier.
Évidemment. Alors, pour Villemse, il n'y a pas de risque tout de suite de blessure, de rechute. Pour François Kroos, on voit qu'a priori, ça va. Mais Villiers, ce serait quand même un peu précipité de le voir directement retrouver sa place en équipe de France. Appelé, je ne sais pas ce que tu en dis, Denis, on rappelle qu'il avait déjà rejeté.
Ça dépend s'il reprend.
Il ne faut pas oublier Romain Tamak. Romain Tamak, avant la tournée de novembre, il était blessé. Il sortait une grave blessure à la cheville, 0 minutes. Appelé par Fabien Galthié, même pas libéré en club, et qui a fait les 3 matchs.
Mais il n'a pas fait une énorme tournée non plus.
Évidemment. Et puis après, on n'a quasiment pas joué depuis un an.
On connaît l'importance pour Fabien de certains joueurs plus que d'autres. Voilà, donc on pense. Je n'ai aucun souci par rapport à Villiers. Après, il reste du temps quand même. Il va jouer dimanche peut-être. Non, c'est ça, Julien ?
Non, normalement, il a annoncé reprenant pour la fin du mois de janvier. Donc avec une petite semaine d'avance peut-être. Mais voilà, je pense qu'il pourrait être présent pour le 5 février, le premier match à Rome, même
c'est
compliqué.
Ça va être serré après, en timing. Je suis partagé, moi. C'est vrai que le rythme fait partie quand même de tout un chacun, de tout un joueur. Je crois que sans rythme, après, tu as du mal à suivre. S'il n'a pas rejoué, c'est que ça me semble compliqué de le faire jouer en Italie.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus 50 solutions au poste d'ailier, parce qu'on a Mathis Lebel, Damien Penaud, et derrière, Teddy Thomas, Ngambedera, Testao, Raka, il semble avoir été écarté par le staff. De Lib, il est capable de jouer à l'aile, mais il n'est pas non plus titulaire indiscutable avec Toulouse malgré son statut d'OVNI en devenir. Etienne et Favre, eux non plus, n'ont jamais eu leur chance. Biel Biarré, Jacquelin, Rémi Baget, c'est peut-être les joueurs de demain, mais peut-être pas d'aujourd'hui. On sent qu'il y a une petite difficulté à ce poste-là. L'autre solution, c'est de laisser Moefana
à l'aile.
Et de prendre un centre différent. Je pense à Julien Delbouis, on en a parlé avec Julien Landry la semaine dernière, qui fait une saison extraordinaire et qui est aujourd'hui dans un registre pas forcément similaire, mais approchant de celui de Julien Tondanti, à savoir un gros tonnage au milieu, capable de gagner les duels en attaque en défense.
Mm-hmm. Manu, ton opinion là-dessus, il vaut mieux changer.
Ouais, c'est compliqué, mais ça c'est très rochelé dans l'âme de se compliquer la vie.
C'est vrai que c'est compliqué de laisser les joueurs au poste où ils sont bons, t'as raison.
Voilà. Non,
changeons donc, tout, non, on change le 10, on fait comme le middle demande, on change le 10 comme tous les ans, on change le 9 parce que Dupont il y en a marre, t'as raison Manu, on va tout changer.
T'as pas de logique, il y a Lebel qui a joué, qui était titulaire, qui a fait de très bons matchs, tu mets Lebel à l'aile et tu mets Moefana au centre, je vois pas où le problème.
Et c'est plus logique que laisser le Moefana au centre où on a gagné à l'aile où on a gagné tous les matchs.
Oui, mais là tu te manques des centres.
Pour moi c'est plus logique, oui, bien sûr.
Pour moi aussi.
Bien sûr.
Vous voulez parier un resto ?
C'est pas un resto. Aujourd'hui, qui va remplacer Danti d'après toi ? C'est Moefana.
Je sais pas. Non, je suis pas certain. On verra.
Mais dans la logique, si. Ça sera Moefana.
Non, mais en plus, ce serait dur pour Lebel. Je suis désolé.
Lebel, il n'y a pas que Lebel. Il y a Raka, il y a Yalbaré,
il y en a parlé.
Il y a Jacquelin, il y a du monde qui pousse derrière.
Il y a du Mortier aussi qui peut rentrer.
Je vois plus de candidats à l'aile qu'au centre. Donc Moefana,
Thomas,
oui, je le mets.
On l'a oublié, Teddy Thomas, c'est fini.
C'est un peu lui qui s'est écarté de lui-même.
Oui, il peut oublier lui aussi, non.
Ok.
Pardon, Denis, il est dépité.
Il a essayé. Tu peux récupérer pour les barbares.
Je
l'adore, mais bon, j'espère que c'est pas fini pour lui,
que la roue
tournera à un moment donné. Okay. C'est beaucoup d'affection pour ce joueur. Je trouve qu'il a des qualités énormes. Mais après, dans un contexte aujourd'hui qui est difficile pour lui, où il n'arrive pas à s'imposer forcément à La Rochelle. Je le comprends.
Un petit mot concernant François Kroos, qui a donc déjà retrouvé les terrains, en tous les cas sur le banc. Retrouvera-t-il pour autant une place de titulaire au sein de la troisième ligne des Bleus ? Pas certain, au vu des prestations d'Olivon quand même pendant le tournoi et qui lui était
un taulier. Drôle de soldat.
Hein. Ah, ouais.
Ah, moi, François, je le signe tout. Tout dépendra de comment il va revenir, de son état physique. S'il est au sommet, il y aura concurrence, forcément.
Ouais. Comme il y a concurrence entre Marchand et Movaca au poste de talonneur.
Non,
Marchand, il y a débat. Après, Denis a raison, après la Nouvelle-Zélande il y a un an, Cross, Jelonche, Aldrit, on disait que c'était indéboulonnable et que Charles Olivon allait avoir les pires difficultés pour retrouver sa place. Et les blessures font que Olivon il a retrouvé son rôle, mais c'est vrai que François Cross est quand même un drôle de joueur.
Il y aura débat.
Et c'est peut-être Anthony Jelonche qui pourra peut-être sauter, vu sa polyvalence, en étant capable de jouer 8, de jouer 3ème linelle, et qu'on pourrait avoir un Cross, Olivon, Aldrit. Attention, hein, parce qu'après, il faut voir comment Cross va revenir, parce que faut pas oublier que lorsqu'il est revenu de sa première blessure, il n'avait tenu que 5 minutes et qu'il avait rechuté. Donc il faut voir aussi dans quel état physique il va être.
Moi, je pense qu'au sommet de son potentiel physique, il sera titulaire.
D'accord.
Après, on ne sait pas comment il va revenir. C'est toujours la même interrogation à chaque fois que tu reviens d'une grave blessure.
Manu ?
Si pour faire plaisir à Pierre Amiche, je vais intégrer la deuxième ligne à cette question de la troisième ligne.
Bah oui, ça dépend de l'équilibre. Bah oui. C'est une question d'équilibre.
Et voilà. Et donc, regardons la globalité. Il n'est pas évident non plus que Olivon n'ait pas, dans les mois à venir ou les années à venir, un destin qui l'amène à monter comme l'a fait Woki en deuxième ligne et qui est pour libérer une place en troisième ligne.
Tu me l'apprends là. C'est une possibilité ou c'est une rumeur
Non, mais ça peut être une idée parce que, en fait, le problème de l'équipe de France, si tu alignes Aldrit, Jelonche, Cross, c'est tes sauteurs. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir... Oui, mais Woki, le problème, c'est que cette année, il est quand même bien moins impérial que Charles Olivon. Donc peut-être que la réflexion va exister, peut-être pas là tout de suite, dans les prochaines semaines, mais je suis assez d'accord avec Manu sur le fait que l'important, c'est l'équilibre entre ta deuxième et ta troisième ligne.
On est d'accord.
Encore plus
et depuis... n'écartons pas, du coup, dans ces cas-là, Yacouba Camara.
Tout à fait, capable de jouer les
cinq postes entre revenir, 4, avec Montpellier. Il a joué 4, 5, 6, 7, 8 cette saison. Il fait une saison énorme. Il est redevenu le très, très grand Yacouba Camara, et moi je pense qu'il peut faire partie des 42 et avoir son mot à dire, parce que honnêtement, la polyvalence aujourd'hui de Yacouba Camara est un atout pour lui indéniable.
Mais je vais même plus loin, ça veut dire en regardant les matchs, il peut même rentrer en concurrence à Woki. Hein.
Bien sûr,
il n'y a pas de raison.
Pour finir, Julien, est-ce qu'il y a la possibilité de voir apparaître de nouveaux joueurs dans cette liste? Est-ce qu'il est encore temps de faire des expériences et d'intégrer du 109?
Quel Montpellierin il va réussir à nous caler là.
Ouais, voilà.
Non, mais il y a toujours des ovnis. Pierre en a cité quelques-uns, alors on ne va pas faire une liste, mais c'est vrai que celui dont on parle le plus, que Fabien avait tenté d'appeler, c'était Biel Biarré, l'ailier de Bordeaux, qui fait d'ailleurs depuis quelques semaines. Quel joueur. Ouais, qui est vraiment très très impressionnant et qui, je trouve, ressemble un peu à un Gabin Villière et qui pourrait être l'une des surprises. Après, il y a Dumortier qui fait une énorme saison avec Lyon cette saison. Il y a Gaëtan à Pau et puis il y a devant Roumat malgré tout, qui pourrait lui aussi peut-être taper à la porte à la troisième ligne. Voilà les quelques noms qu'on pourrait citer. Il y en a évidemment plein d'autres, mais voilà ceux qui sont peut-être les plus proches en tout cas des 42 que Fabien Galthié pourrait appeler. Sans oublier, tu voulais un Montpellierin, Alexandre Béconnier, qui a été énorme encore une fois hier soir, qui est l'habitué de faire les allers-retours entre le lundi à Marcoussis et le jeudi à Montpellier, mais qui est en train lui aussi de franchir un cap cette saison. Mais voilà, la troisième ligne est tellement fournie, évidemment, que ça sera compliqué pour lui de prétendre à une place, mais il n'est pas très loin.
Il est impressionnant, Béconnier.
Oui, exactement.
Non, mais on ne le découvre pas, mais là, hier, il a fait un match monstrueux. Chaque fois qu'il a le ballon, il transperce la défense.
Tu le mets à la place de qui ?
Non, je dis pas qu'il doit jouer, mais il est assez surprenant dans son évolution aujourd'hui et là où il arrive aujourd'hui. Je pense qu'il peut rentrer à un moment donné dans une concurrence.
Bon, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Il y a toujours pléthore de jeunes.
Ligne, là, c'est
moi celui qui m'a le plus impressionné, mais je l'ai eu à Barbarian, donc je l'ai vu de près aux entraînements, c'est Biel Biarré. C'est incroyable, le gamin.
Tu le prends chez les Barbarians?
À 18 ans. Mais il a joué, nous, là, contre
les Fiji. Non, mais tu le reprends ou pas?
Je le reprends pas. Je pense que c'est l'équipe de France qui va le reprendre.
Ah, d'accord.
Non, j'ai pas d'infos, mais non, ce que je dis, si on devait parler d'un ovni, je pense que lui, pour entrer, vraiment,
une bonne catégorie d'ovni.
Non, mais il a des qualités, ce gamin. Il a quel âge? 18, 19, je sais plus quel âge.
18,
il a pas 19 ans, hein, je crois pas. Hein.
Si on rajoute Dumortier et Gaëtan, c'est quand même très solide, ce
gamin-là, il est imprévisible, il a toutes les qualités pour réussir. Voilà, donc après, on sait très bien qu'après, quand tu évolues au plus haut, il faut y rester. Mais aujourd'hui, il prouve à chaque sortie, il prouve ses qualités et son mental.
Et finalement, est-ce qu'il y a un poste où on est un petit peu en dedans, où il n'y a pas trop de concurrence, où on serait un petit peu en difficulté si on avait des blessés? Peut-être les postes de pilier droit, non, Denis?
Non, je trouve que...
Il y a plein de piliers droits.
Non, mais c'est Paul Willemse. Il n'y a pas beaucoup de droitiers au sens...
Il y a la solution.
De deuxième ligne.
C'est Méafou. aujourd'hui, le sélectionneur de France prie pour que son passeport lui soit, lui soit accordé le plus rapidement possible.
Ah, s'il est accordé, il va
parce que normalement, sauf cataclysme, il a fait la demande.
Dans les 42.
Il devrait être dans là, du voyage
en
pour
année,
le mondial.
En année de Coupe du Monde.
Oui, je pense qu'avec un ou deux coups de téléphone, son dossier pourrait être un petit peu accéléré. C'est une possibilité non négligeable de voir Méafou aujourd'hui intégrer le groupe de l'équipe de France. Tu t'en charges, Denis ?
Oui,
parce que normalement, c'était Christophe, mais si c'est toi, c'est bon.
Quoi, le ministère de l'Intérieur, la Défense, c'est quoi?
La Défense, on y va à pied, c'est juste à côté. Oui.
Voilà, il est là, le nouveau président délégué, on l'a trouvé. Je suis sûr, en plus, que toi, au référendum,
Laisse-moi la
réunanimité auprès des amateurs.
Dans des détails que... Non, c'est ça, il faut...
Un mot sur ce tournoi, même si on aura l'occasion dans les semaines à venir de vous présenter ce tournoi en détail. Année impair, tu le disais, Julien, plus difficile à gagner. Vous en attendez quoi pour les Bleus? Un nouveau grand chelem, une victoire toute simple ou des prestations plus abouties qu'en novembre? Manu, quel est ton vœu le plus cher pour ce tournoi destination pour l'équipe de France?
Des victoires. On a besoin de rien d'autre que de victoires. On a besoin de plein de choses, mais aujourd'hui c'est avant tout de la victoire. Il faut continuer sur cette lancée. Cette équipe de France, elle ne doit pas trembler, pas maintenant, pas après tout ce qu'elle a fait, pas elle. C'est pas le moment de trembler.
C'est pas dans le rugby. Je vais vous étonner, je suis totalement d'accord, Emmanuel.
C'est pas vrai.
Qu'est-ce qui se passe?
Que de victoires,
c'est
la
ligne toulousaine. C'est pourquoi il faut que des victoires, parce qu'il faut rester invincible.
Bien sûr.
C'est ça surtout. C'est là
où vous pensez franchement que l'équipe de France est capable, de rééditer l'exploit, de remporter les...
Oui, parce qu'elle est tellement étonnante au niveau de l'état d'esprit. C'est un groupe... Elle évolue aujourd'hui comme un club. Donc après, tout est possible. Ils ont un grand capitaine. Ils ont le meilleur joueur du monde. Et puis ils ont le culte de la gagne aujourd'hui. C'est des mecs qui se refusent de perdre, quoi. Donc non, mais c'est vrai.
C'est exactement ça. Ils sont en mission pour aller chercher la Coupe du Monde.
Et pas les Irlandais, pas les Anglais, pas les Gallois.
Ceux qui sont là, ils arrivent à élever le niveau de ce qu'on a vu en novembre.
Ils n'ont rien à cirer du tournoi, rien à cirer de la Coupe du Monde.
Au contraire.
Mais arrête de raconter des conneries, Pierre.
Non, mais à vous écouter, il n'y a que l'équipe de France qui est en mission. C'est-à-dire les Anglais, ils ont viré Eddie Jones, ils arrivent. Les Irlandais, numéro 1 mondiaux, meilleurs joueurs du monde, ils ont mis des branlées à tout le monde. Mais eux, ils vont nous recevoir à Dublin, ils vont nous offrir la bière et la victoire. Non, mais vous avez raison.
Je t'ai pas dit qu'on va y arriver. Je te dis juste que c'est peut-être la première fois de l'histoire où tu as une équipe de France qui est enfin et autant aligné sur son ambition et qui est aussi raccord avec son projet.
Ça reste une année impaire.
Je ne t'ai pas dit qu'on va y arriver.
Tu te déplaces à London Road, déplaces à Twickenham, c'est difficile.
Alors Pierre,
jamais dit qu'on allait y arriver.
Pierre, je vais te répondre. Il y a un bémol à ce que tu dis. C'est que pour la seule une rare fois dans l'histoire du rugby français, on a gagné 13 victoires d'affilée.
Oui.
Donc si tu veux, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas
parce
dans une
gagné,
configuration. Oui, exactement. C'est la dynamique.
Ça marche pas. Non, mais ça marche
mais la
pas
dynamique,
comme ça.
Évidemment, ce groupe est animé par. Je suis désolé, il est habité. Moi, il me fait dire. Ça me fait dire. Évidemment que ça sera dur en Irlande et en Angleterre. Mais tu peux. T'as pas une. Est-ce que tu as une marge de. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Irlande et nous? Excuse-moi, au niveau de la
Denis,
qualité.
Il a oublié
au
toutes les critiques qu'il a pu faire sur l'équipe de France en novembre où on s'est fait
chier. Il y a deux débats. Alors, c'est pas le même débat.
Je viens en soutien de Denis.
Mais non.
Tu dis n'importe quoi. C'est pas le même débat. Tu mélanges.
J'ai jamais attaqué l'équipe de France, j'ai attaqué sur un truc, des possessions. Non, mais en disant qu'on pouvait. J'ai juste dit qu'à un moment donné, ça pouvait apporter des limites dans le jeu et par rapport aux adversaires, c'est tout. Et qu'il faudrait mieux avoir un plan B de temps en temps en cours de match pour s'en sortir un peu mieux. Ouais. Parce que là, contre l'Afrique du Sud.
Galtier, il n'était pas le roi du plan B aussi, hein.
Mais non, mais c'est pour ça que je dis que contre l'Afrique du Sud, c'est passé par miracle, contre l'Australie aussi. Donc pas le Japon, parce que le Japon, il y avait encore de la marge. Mais c'est l'interrogation, Julien, c'est ce que j'ai dit. C'est que moi, à un moment donné, j'ai une réflexion qui me fait dire qu'il vaut mieux qu'il y ait un plan B à un moment donné.
En tout cas, ce serait une première, puisque depuis que le tournoi des Six Nations existe, l'équipe de France n'a jamais remporté le Grand Chelem en année impair. Il y a eu 4 victoires, 2002, 2004, 2010, 2022. Chaque
c'est
fois,
dire c'est la nécessité de la
chose. Ce serait quand même un exploit extraordinaire. D'aller gagner, notamment à Dublin et puis aussi à Twickenham. Le staff des Bleus va donc avoir beaucoup de travail d'ici la fin du mois d'octobre, tournoi et puis après la préparation de la Coupe du Monde. Un staff dont on sait qu'il perdra plusieurs membres à l'issue de cette Coupe du Monde, notamment Laurent Labitte et Karim Ghezal qui rejoindront le Stade français ou encore Thibaut Giroud, le directeur de la performance en partance pour l'UBB. Alors qui pour les remplacer? Certains noms ont été évoqués ces dernières heures, Pierre, notamment ceux de Laurent Sempere, mais également celui de Pierre Mignolet. Denis, même s'il y a eu du nouveau cet après-midi.
Eh ben oui, deux entraîneurs qui sont dans des situations très différentes. D'abord, il y a le cas le plus simple qui est déjà réglé, c'est celui de Laurent Sempere, qui est l'entraîneur actuel des Avants du Stade Français, qui devrait reprendre les mêmes missions que Karim Ghezal au sein du 15 de France, à savoir la touche. Un secteur dans lequel le Catalan a fait progresser le Stade Français de manière assez spectaculaire, c'est un des meilleurs alignements du top 14. Une seule question aurait pu être délicate, c'est la répartition des tâches entre lui et William Servat, qui va rester en poste, mais les deux hommes auraient déjà pu échanger sur les missions de chacun. Et je dis que le cas est simple parce que Laurent Sempere, qui est en contrat jusqu'en 2024, ne sera pas retenu par son club qui a déjà misé sur un nouveau staff. C'est plus complexe en revanche pour Pierre Mignoni, qui est le directeur du rugby du RCT et qui est sous contrat lui jusqu'en 2026. Depuis l'annonce en interne du départ de Laurent Labitte, Fabien Galthié et Pierre Mignoni imaginaient travailler ensemble au sein d'un 15 de France remanié. Dans le middle, on a appris aujourd'hui que le président du RCT, Bernard Lemaître, ne retiendrait pas son entraîneur en cas de sollicitation. Mais patatras, aujourd'hui, le technicien varois et le club ont communiqué de manière un peu étrange en réponse à l'article du middle en disant « Je dément m'être engagé », c'est Pierre Mignoni qui parle, « avec le 15 de France. J'ai rencontré ce lundi matin le président Bernard Lemaître pour lui confirmer mon engagement avec le RCT. Je suis revenu dans ce club pour bâtir un projet à long terme avec le président Franck Azéma. Je compte bien aller au bout de ma mission. » Et le club précise que le RCT compte plus que jamais sur Pierre Mignoni, Franck Azéma, etc., etc. Pour resituer, Mignoni avait longtemps hésité avant de pouvoir le train bleu passer fin 2018. Une signature avec le 15 de France semble désormais de plus en plus hypothétique. Des entraîneurs sont ou seront sur le marché. Par exemple, Gonzalo Quesada, qui a déjà travaillé avec les Bleus, lui, bah, il sera libre.
Alors Manu, donc c'est vous qui révéliez cette information concernant Pierre Mignoni ce matin.
Mais non,
alors,
qui croire,
le middle ou Mignoni, voilà. Manu, quelle est votre position?
Les deux, mon général.
Il tape en touche.
Non, je botte pas en touche. Bien sûr que Pierre Mignoni, et nous n'avons pas écrit autre chose, était le numéro 1 scotché sur la liste de Fabien Galthié. Il y a eu plusieurs échanges, les hommes devaient se voir vendredi dernier, le rendez-vous a été reporté et il y avait eu un vrai intérêt. Maintenant Pierre Mignoni dit qu'il ne s'est pas engagé, qu'il n'a pas signé, il dit aussi qu'il veut rester à Toulon. Est-ce qu'il faudra voir que ça se confirme? Est-ce qu'il restera à Toulon jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'il restera à Toulon jusqu'au bout de son contrat? Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que la discussion qu'il y a eu entre son président de club ce matin et Pierre Mignoni vont l'amener à se positionner assez rapidement et à confirmer qu'il reste à Toulon pour les années à venir.
Oui,
mais oui, il y avait une très grosse appétence. Pardon?
Il y a eu l'anguille. On cache rien en disant qu'il avait l'ambition de rejoindre l'équipe de France, ça c'est certain.
Oui, mais entre-temps, il s'est engagé avec Toulon. Mais
parce qu'il vient d'arriver avec Toulon, ça semble
compliqué.
Je pense que la discussion qu'il y a eu avec M. Lemaître, c'est à tout changer.
Et puis, je pense. Il y a eu aussi, mine de rien, la pression véritable des supporters du RCT. On sait que Pierre est
surpris et mécontent. Hein,
voilà, exactement. Il n'était pas content du tout. Oui. On sait que Pierre est un vrai Varois, qu'il a grandi au club du RCT, qu'il est revenu aussi parce qu'il est amoureux de la région et du Var. Et à partir du moment où les supporters n'étaient pas contents, où le club... Je pense que Toulon aurait été dans les 6. Les supporters auraient été heureux. Il y aurait eu des signatures annoncées. Pierre aurait pu partir à l'esprit léger.
Je ne peux pas quitter le navire
comme
ça. Ouais.
C'est un peu plus délicat. Au lendemain d'une défaite...
Pas lui, pas maintenant.
Voilà, c'est ça. Le contexte n'a pas permis à Pierre Mignoni de rejoindre l'équipe de France en dépit de son amour pour les Bleus.
Oui, ce qui est dommage pour lui, c'est de rentrer dans le stade de l'équipe de France comme numéro 2 pendant 4 ans.
Parce que ça aurait pu en faire permettre un potentiel numéro 1
dans 4 ans, tu sais pas comment, tu vois, c'est loin, c'est loin 4 ans. Et là, c'est une opportunité pour entrer.
Rappelez-vous que ça avait été la même chose, Pierre l'a dit en 2018,
fin 2018,
où quand Pierre a entraîné Lyon. Pas Pierre Amiche, hein, le vrai Pierre Mignoni.
Le pauvre Lyonnais, quoi. Ouais.
C'est bien de le préciser.
Ils ont progressé en raclette, quoi. Voilà.
J'ai eu peur. Quand Pierre Mignoni entraînait Lyon, la question s'était posée et il avait là encore rencontré son président. Et finalement, il était resté à Lyon. Et je pense que Pierre Mignoni, quand il dit aujourd'hui qu'il va rester à Toulon, il va rester au Toulon.
Bien l'impression,
L'histoire s'est inversée.
Connaissant le bonhomme, je pense que c'est fait.
La tendance s'est inversée.
Vous avez déclenché le truc, en fait. C'est ça, Manu. Vous avez servi à déclencher.
Vous avez tué la carrière de Pierre Mignoni. Bravo. Bravo. Ouais, il rejoindra jamais l'équipe de France.
Avant de tuer la carrière de Pierre Mignoni, il faut se lever tôt.
On n'aurait pas pu.
C'est une ronce.
Manu, toi qui es à Toulouse, donc t'es proche de l'information. Un entraîneur comme Hugo Mola, ça aurait pu l'intéresser?
Oui, comme qui mais n'est comme, pas intéressé par l'équipe de France
comme numéro 1.
À une époque, je pense qu'il y avait eu des appels du pied qui avaient été faits et que la tendance Hugo Mola était possible. Je ne sais pas si elle le sera encore.
Non, mais aujourd'hui, si Pierre Mignoni renonce, comme ça va être le cas, il me semble, il n'y aura pas grand monde.
Tu vas avoir Quesada.
Quesada, aujourd'hui.
Greg Thomsen qui a fait acte de candidature.
Ce qui est curieux parce qu'il est quand même sélectionneur de l'équipe d'Écosse. Bon, c'est quand même un peu particulier.
Alors,
aux dernières nouvelles, c'est que lui, il veut plus entraîner de club, en fait. Donc lui, Thomsen.
Oui, ça tombe bien, il entraîne une sélection.
Oui, mais ça veut dire après qu'avec l'Écosse, après la Coupe du Monde, il va pas être, tu vois.
Et Julien, il y a pas un Montpellierin là que tu pourrais envoyer en équipe de France.
Philippe Saint-André le retour.
Et pourquoi pas Jean-Baptiste Elissalde.
Ah, mais il a travaillé avec Jean-Baptiste Elissalde pendant longtemps. Fabien Galthié, Jean-Baptiste Elissalde était dans le staff de Jacques Brunel, donc ça pourrait être une possibilité, mais je crois pas que des contacts aient eu lieu et que Jean-Baptiste soit. Je sais pas s'il est.
On attend le midi de vendredi. Il y aura peut-être des infos.
Des vrais, cette fois. C'est pas une piste envisagée.
Non, mais allez faire un tour sur Rugby Ravin. Vous verrez que Pierre Mignoni a effectivement confirmé à son club et il a aussi confirmé à la Fédération française de rugby.
Qu'il
allait rester au RCT.
Ça vous choque pas, Pierre? Je sais que tu es un peu chagriné de voir ces annonces comme ça. On pense déjà à l'après Coupe du Monde alors qu'une saison cruciale est sur le point de débuter.
Non, mais ça, c'est une spécialité unique au monde. C'est que le rugby qui fait ça, quoi. Je veux dire, on voit des joueurs, des entraîneurs qui annoncent leur future destination en pleine saison. Moi, je trouve ça assez fou. Imaginez deux secondes la gueule de Gonzalo Quesada quand il a ouvert la presse et qu'il a appris qu'il était viré. Parce que c'est ça qui est arrivé, quoi.
Oui, mais on le sait aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas pour ça que c'est acceptable, Denis. Imagine, c'est Levasio Tolofua. Il signe à Toulon parce que Pierre Mignoni l'a convaincu. Et puis, je sais pas, six semaines après, il apprend qu'en fait, Pierre Mignoni, il se tire. Je sais pas, moi, ça me choque. Ça me choque même si je ne remets pas en question sa probité ni sa capacité à être un grand professionnel. Mais quand Christophe Furios est à Castres, annonce sa signature à Bordeaux et qu'il y a un Bordeaux-Castres capital, je suis désolé, moi ça m'ennuie. Même si ça change la performance et le résultat que de 1%, c'est trop. Voilà, ça m'embête.
Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. C'est la règle du rugby qu'il n'y a pas dans le foot, d'ailleurs. C'est aussi la construction d'un calendrier de rugby avec cette Coupe du Monde qui intervient alors que la saison a déjà débuté. C'est toujours très compliqué.
Et puis après, il y a les fins de contrat. Le fait qu'il n'y ait pas de transfert en rugby, tout le monde se précipite sur les fins de contrat. Il regarde quels sont les joueurs en fin de contrat, et c'est pour ça que Damien Penaud c'était l'homme à recruter cette année. Quand janvier, on sait qu'il va signer à Bordeaux la saison prochaine. Et voilà, c'est compliqué. C'est le fait qu'à partir du moment où tu refuses qu'il y ait des transferts dans le rugby, tout le monde se précipite sur les fins de contrat. C'est le premier qui va offrir l'offre la plus intéressante aux joueurs qui va signer. Alors après, ça pourrait être signé et ça ne pourrait pas être reçu. Le problème, c'est qu'on sait tout aujourd'hui, mais après, il pourrait pas signer en janvier.
Oui, mais les problèmes de transfert, Julien, c'est qu'il n'y a pas d'économie. Parce que si demain,
évidemment.
Tu tues le.
Il y a quelques transferts de temps en temps.
Mais tu tues les clubs, quoi. Si tu imagines le transfert demain, comment tu fais pour acheter des transferts?
Puis même, on pourrait garder le silence, ne rien dire jamais, mais c'est aussi le rôle et le jeu des agents de faire parfois un petit peu monter les prix en expliquant à des journalistes que y a plusieurs clubs qui sont sur le dossier. C'est pas idiot, c'est pas interdit. Et puis,
c'est pas le cas pour Pierre Mignoni, là.
Non, pas du tout.
On sait qu'il gagnera moins d'argent s'il va en équipe de France qu'il en gagnera, comme tous les entraîneurs de club. Ils sont mieux payés en club qu'en équipe de France.
Oui, ils sont encore mieux payés quand même en équipe de France. Ça augmente. Non, mais c'est vrai.
Il faut payer les meilleurs à partir du moment où
c'est les meilleurs. Non, mais je dis pas ça. On connaît l'enveloppe, c'est 5 millions d'euros. Donc, si tu veux, ils sont quand même bien payés.
Ils sont quand même nombreux aussi, mais c'est vrai qu'ils sont mieux payés que par le passé, c'est sûr.
Ils sont 30 dans le staff ?
Oui, ils sont une trentaine dans le staff.
Il y a les analyses vidéo.
Ça fait combien ?
Non, dans le staff, t'es dans le staff ?
Oui, bien sûr. Continue à avoir des doutes, toi.
Dans les 5 millions, il y a les babas. Dans les 5 millions, il y a les babas.
Attention, tu récupères des places. Tu récupères quelques places ou non, toi ?
Oui, bien sûr, 200.
Mais tu les as payés, c'est pour offrir à la famille.
Ah non, on me les donne, tu vois. Mais non, mais t'es fou, quoi. Je vais pas les payer non plus.
Il a une bonne tête d'ambassadeur, quand même, Denis Charvet.
Mais vous voulez que je les paye en plus ? Très bien.
Denis quoi ? Denis ?
On va le faire
pour les garçons. On va éviter le dérapage. On va s'arrêter là. Et puis on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. On suivra avec attention le Midi Olympique. Ce sera dimanche soir.
Avec les infos. Tu sais, parce qu'il y a plein d'infos dans le Midi Olympique. Il y a des mecs qui annoncent que Mignoni va signer à l'équipe de France. Et puis d'un coup, non, il signe pas.
Va sur Rugbyrama, tu vas voir.
Le nouveau Rugbyrama.
On peut pas parce qu'il y a RMCsport.fr tout le temps qui est allumé. Tout le temps chez nous, on peut pas. On peut pas, on n'a pas le droit.
Pareil.
Merci les potos, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
On a hâte que ça débute ce tournoi.
Bonne année, Manu.
Meilleur
vœu. Bonne santé.
À l'année prochaine, parce qu'au rythme où va la technique, on se reparle dans un an, d'accord?
Salut les gars.
Ça fait du bien de vous avoir.
À lundi prochain.